Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, pour une émission au sommaire copieux puisque beaucoup d'événements musicaux ont lieu d'ici la fin du mois de novembre. Je rappelle que la nouvelle production de Don Giovanni se tient à l'Opéra National du Capitole du 20 au 30, mise en scène par Agnès Jaoui, lors de 9 représentations qui affichent hélas déjà toutes complètes. Le 21, il y a le deuxième concert de la saison Toulouse Guitare donné à la salle du Sénéchal par le duo formé par Kevin Sedicki et Jean-Louis Matigné. Et enfin le 24, le cycle des grands interprètes accueille le Münchner Philharmoniker, les frères Youssen et Tougan Sokiev à la Halle aux Grains. Agenda très chargé donc pour la semaine à venir que nous allons vous présenter avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous allons aussi présenter un autre concert, celui que donnent l'ensemble Antifona, le chœur Nota Bene et le duo Zubovas le 28 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Pour découvrir le programme et les acteurs de cette soirée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Rolandas Muleika, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Antifona, avec qui nous allons parler de ce concert en seconde partie d'émission. En attendant, nous allons d'abord revenir avec Serge sur l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux. Je suis particulièrement heureux de recevoir Rolandas Muleika pour la première fois dans cette émission. Et oui, c'est une première. Nous allons tout de suite revenir sur un double concert qui a eu lieu les 5 et 6 novembre à la Halle aux Grains, celui de l'Orchestre National du Capitole avec le jeune pianiste Roman Borisov, placé sous la direction du chef américain Ryan Bancroft. Je rappelle que ces deux concerts devaient être dirigés par Tarmo Peltokoski et que la soliste initialement prévue était Yuya Wang. Tous deux ayant dû déclarer forfait, c'est ainsi que nous avons pu découvrir Roman Borisov pour la première fois à Toulouse. Ryan Bancroft, lui, on le connaissait déjà. Serge, comment se sont passés les débuts toulousains de ce jeune pianiste russe qui a donc joué le fameux concerto numéro 2 de Rachmaninov?
Oui, et non le deuxième de Prokofiev qui était prévu par Yuya Wang. Alors c'est vraiment un tout jeune pianiste, il a 22 ans, qui est un véritable prodige. C'est incroyable ce qu'il a fait dans ce concerto, un concerto que l'on connaît bien, qui est ce fameux concerto qui a marqué la renaissance en quelque sorte de Rachmaninov après la grande déception qu'il a connue à la suite du rejet de sa première symphonie. Donc c'est une œuvre bien connue. Et là, on a assisté à la fois à un déploiement rutilant de l'orchestre sous la direction de Ryan Bancroft et avec le dialogue qui s'est établi entre le piano et l'orchestre de manière parfaitement équilibrée. C'était vraiment un bel équilibre d'une part au sein de l'orchestre, entre les divers pupitres, et entre le piano et l'orchestre. Et puis, on a eu droit à quelques solos instrumentaux de l'orchestre, avec en particulier la splendide intervention du cor, qui joue un rôle très important dans ce concerto. Et donc, on a eu droit à la fois à la grande agilité, à la volubilité du jeu du pianiste, et puis son sens absolu des nuances, ce qui est tout de même intéressant. Ça n'était pas que de la virtuosité, loin de là. Avec le dialogue touchant de l'Adagio Sostenuto, que j'ai trouvé vraiment probablement le passage le plus émouvant, et il a su même soutenir les silences expressifs, soit dit entre guillemets, de la partition, avec la tempête passionnée du final. Ça a été vraiment un très beau moment, avec cette fin connue de quelques œuvres de Rachmaninov, qu'il signe de son nom, avec le Rachmaninov, c'est ce rythme très caractéristique. Donc il a eu vraiment un gros succès, et il est venu jouer un bis. Alors un bis totalement abracadabrantesque. Il s'agissait d'un bis du compositeur américain né en 1938, William Bolcom, que j'avoue je ne connaissais pas. Et donc c'est extrait de ses 12 New Etudes, et c'est intitulé Rag Infernal, ça dit bien tout ce que ça veut dire. Un peu une allure de ragtime, en fait, effectivement, mais avec une écriture explosive, avec de spectaculaires clusters de l'avant-bras sur tout le clavier. Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'œuvre s'achève par un long silence qui est inscrit dans la partition. Donc c'est un silence que le pianiste a très bien respecté. Alors ça a été très positif, l'accueil du public. On aurait pu penser que
oui,
ça pouvait déconcerter.
Ça peut être risqué, effectivement. Bon, c'est
mais,
un lice,
mais,
hein, c'est
mais
un
ça
lice,
a été très bien, vraiment.
Du programme, mais
ouais, ouais.
Alors je crois que c'est une œuvre qu'il avait jouée en concours.
Et c'est ça, exactement.
Plusieurs reprises, donc
oui, oui,
il a bien
oui,
dans
oui,
les
oui,
doigts.
C'est une œuvre qu'il connaît bien, oui, absolument. Mais c'est délirant, hein, c'est vraiment délirant. Bien, en deuxième partie, on a eu droit à ce qui était prévu, c'est-à-dire le poème symphonique « Les planètes » de Gustav Holst, le britannique, qu'il avait écrit entre 1914 et 1917. Hein. Alors, il y a évidemment sept mouvements qui correspondent aux sept planètes qu'il a intégrées, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, chacune ayant sa caractéristique un peu astrologique, hein, en quelque sorte. Il s'est basé là-dessus. C'est toujours très spectaculaire, le début, avec Mars, celui qui apporte la guerre, et le contraste avec Vénus qui apporte la paix, etc. Donc, c'était vraiment, là aussi, le chef a permis le déchaînement de toutes les ressources orchestrales, hein, et donc, ça a été très coloré, très vivant, très dynamique. Il a un peu souligné dans Uranus, le magicien, qui évoque un peu l'apprenti sorcier de Paul Dukas. On retrouvait presque le même thème. Et donc avec le soutien magique pour la dernière pièce d'un chœur de femme, alors qui se fait entendre, c'est un chœur sans parole, et qui chante dans les coulisses, depuis les coulisses, et qui n'apparaît pas sur scène. Et c'est une fois encore le chœur d'État de Lettonie, Latvia, qui était déjà intervenu ici à la Halle aux Grains, qui est placé sous la direction de Maris Sirmais. Et donc, c'était la conclusion de cette œuvre sur un long décrescendo a cappella du chœur, et qui semble un peu se perdre dans l'infini. C'était vraiment très beau, très bien fait et très soutenu. Et ça a eu un grand succès. Il a fallu quand même un certain temps au public pour redescendre sur Terre après ce voyage dans l'espace. Et donc, un très beau moment.
Oui, alors les pays baltes sont à l'honneur en ce
oui,
moment
exactement.
À Toulouse, mais ce sont des pays de musiciens, alors il ne faut pas s'en étonner. Pour illustrer ce retour sur le concert de l'Orchestre National du Capitole des 5 et 6 novembre, et nous allons écouter justement un extrait des planètes de Gustav Holst, en l'occurrence Jupiter, et c'est une version de l'Orchestre National du Capitole, enregistrée lors d'un concert à la Halle aux Grains il y a une petite dizaine d'années. Jupiter, extrait des planètes de Gustav Holst dans une version de l'Orchestre National du Capitole enregistrée lors d'un concert à l'Allograin en 2016. Le prochain concert de notre ensemble symphonique toulousain est programmé le 27 novembre à 20h et il s'agit du traditionnel concert étudiant. Autre concert sur lequel nous souhaitions revenir, le dernier en date du cycle des grands interprètes donné le 8 novembre à l'Allograin par le concert de la Loge, la formation fondée et dirigée par le violoniste Julien Chauvin, associé pour l'occasion à l'ensemble La Sportelle et à quatre chanteurs solistes que va nous présenter Serge parce qu'il a assisté à cette soirée dont le programme était entièrement dédié à Mozart.
Entièrement, effectivement, avec une première partie symphonique et en deuxième partie, la fameuse grande messe en ut mineur, avec donc cet orchestre, cet ensemble, disons, concert de la loge, qui initialement devait s'appeler le concert de la loge olympique.
Qui s'est appelé quelque temps, le concert de la loge olympique.
Oui, mais le comité national olympique s'est opposé à cette appellation et donc il est devenu le concert de la loge tout court. Alors, c'est un ensemble, comme l'on dit maintenant, qui joue de manière historiquement informée, en ce sens que ce sont des instruments anciens, des cordes en boyau, et puis les instruments en vent, il y a les trompettes naturelles, les cordes naturelles, etc. Donc, ce sont des musiciens qui s'engagent dans une manière historique de jouer. Mais historique, ça ne signifie pas figé. Au contraire, je dirais même, puisque on a eu droit à des timbres affûtés, de ces instruments anciens, et tout ça, ça contribuait à la transparence de l'ensemble orchestral, du tissu, et avec peu de vibrato de la part des cordes, en tout cas pas de vibrato constant comme c'est arrivé avec le romantisme, et donc c'est un ensemble instrumental d'une trentaine de musiciens, c'est l'orchestre qu'on appelle l'orchestre Mozart en fait, hein, donc. Et le concert a débuté avec l'ouverture des Noces de Figaro, que Julien Chauvin dirige depuis son violon, tout en jouant, avec une vigueur tout à fait réjouissante. On a eu l'impression de retrouver le titre original de Beaumarchais, donc le mariage de Figaro, et qui était La folle journée. C'était une folle journée à laquelle nous avons assisté pour cette ouverture. Ensuite, le concert s'est poursuivi avec la dernière des symphonies de Mozart, la symphonie numéro 41, en ut majeur, baptisée bien après la mort de Mozart, il faut le rappeler, Jupiter, hein, et donc vraiment une des partitions les plus élaborées et les plus majestueuses, hein, du répertoire symphonique. Et là l'orchestre et la direction du chef, ça en a donné une lecture à la fois nuancée et contrastée, et toujours transparente. C'était ça l'intérêt, avec de beaux phrasés, et on avait l'impression que le chant irriguait l'ensemble de l'interprétation. Dans le mouvement final en particulier, le Molto Allegro, alors là c'est une construction élaborée qui s'inspire aussi de Bach d'ailleurs, avec un équilibre de la construction et puis de l'élégance. C'était vraiment une très belle exécution que celle de cette symphonie 41 donc. Et puis toute la seconde partie de la soirée était consacrée à la sublime grande messe en ut mineur qui est vraiment une merveille absolue. C'est une messe que Mozart avait composé pour demander les grâces pour la guérison de sa fiancée à l'époque, donc Constance Weber, qu'il a épousée ensuite. Et pour cette exécution, le concert de la loge a été rejoint par l'ensemble La Sportelle, qui est un ensemble fondé sous l'égide de Rocamadour.
Festival de Rocamadour.
Oui, et qui chante sous la direction artistique d'Emeran Rollin. Alors c'est un chœur là aussi à géométrie variable, ici c'était une vingtaine de chanteuses et chanteurs qui se sont intégrés parfaitement à l'orchestre avec vraiment, alors on ne peut pas parler de voix baroque pour le chœur, mais c'était vraiment très bien intégré avec une mise en évidence de la structure polyphonique de cette belle, magnifique partition. Alors là, Julien Chauvin, cette fois dirigé sans son violon, hein, il avait beaucoup de travail à diriger l'ensemble, le chœur, les instrumentistes et le quatuor de solistes qui était constitué de la soprano Mélissa Petit, la mezzo-soprano, ou plutôt seconde soprano, on doit dire, hein, dans cette pièce, Eva Zajcik, le ténor Antonin Rondepierre et la basse Nahuel Di Piero. Vraiment, là aussi, il y avait de grands contrastes entre les divers mouvements, avec le Kyrie, plein de solennité, et puis la participation de cette belle voix de soprano. Il faut vraiment souligner, elle a fait des choses magnifiques. En particulier, ce que j'ai admiré le plus peut-être, c'est dans le Domine Deus, le très beau duo des deux voix féminines. Alors ça, c'est une pure merveille, hein, vraiment. Et puis enfin, alors, la contribution absolument sublime dans Let Incarnatus Est, avec des échanges proprement miraculeux, là, entre la voix de soprano de Mélissa Petit, dont il faut souligner la qualité, et le trio instrumental qui réunit la flûte, le hautbois et le basson. C'était une espèce de dialogue entre les deux, entre la voix et les instruments. Ça a été vraiment le grand moment de la soirée. Un véritable concentré d'émotions musicales et expressives. Et puis enfin, dans le Benedictus final, le quatuor vocal s'est uni au double chœur avec un élan de ferveur qui vraiment donnait le frisson. Ça a été accueilli par une ovation unanime. Très longue ovation pour les artisans de cette belle soirée. Vraiment un grand moment.
Et au programme de ce concert entièrement dédié à Mozart, il y avait donc l'ouverture des Noces de Figaro, dont je vous propose d'écouter une version enregistrée par le Concert de la Loge sous la direction de Julien Chauvin. L'ouverture des Noces de Figaro dans une version enregistrée par le Concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin. Notez que le prochain rendez-vous du cycle des grands interprètes en ce qui concerne les musiques classiques, parce qu'il va y avoir du jazz entre-temps, est programmé le 24 novembre avec le Münchner Philharmoniker sous la direction de Tugan Sokiev. Nous allons vous le présenter tout à l'heure en seconde partie d'émission. Fin de ce retour arrière, une courte virgule musicale et l'on se retrouve en compagnie de Serge Chosy et de Rolandas Mouleika, notre invité d'honneur. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy et Rolandas Mouleika, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Antiphona. Je l'ai annoncé en début d'émission, Antiphona est en concert le vendredi 28 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le chœur Nota Bene et le duo Zubovas. Le programme est entièrement consacré à des œuvres de votre compatriote Čiurlionis, en hommage au compositeur lituanien dont nous célébrons les 150 ans de la naissance cette année. Nous allons bien sûr parler de lui dans quelques instants, mais avant cela, un petit mot pour présenter l'ensemble Antifauna ou le représenter pour ceux qui le connaissent déjà. Qui sont ses membres et quel répertoire défendez-vous avec eux depuis près de 30 ans puisque vous l'avez fondé en 1996. L'an prochain, c'est le trentenaire.
Tout d'abord, merci de m'inviter. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous dans cette belle émission et effectivement dire deux mots sur cette belle aventure qui a débuté il y a 30 ans. Et c'est la troisième génération aujourd'hui qui est présente. Souvent, c'est des personnes qui sont issues des institutions musicales de la région, notamment du conservatoire où j'ai aussi plaisir et honneur d'enseigner. Et mon challenge, si on peut dire comme ça, c'est vraiment former les jeunes artistes régionaux, après ils s'envolent, mais on a aussi des talents qu'on essaie de mettre en valeur et c'est un peu ma volonté de créer cette identité sonore avec les personnes qui parfois arrivent, ils n'ont que 7-8 ans et puis après, voilà, c'est la troisième génération. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Antifauna? C'est surtout mettre en valeur le patrimoine musical régional. Je suis lituanien d'origine, comme vous avez peut-être deviné, et quand je suis venu dans ce beau pays Occitanie, à Toulouse, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie du patrimoine qui était invisible, qui n'était pas encore mis en valeur. On était quelques-uns, il y avait les sacs bouteilles, il y avait les passions, il y avait quelques structures, quelques ensembles qui s'engageaient aussi dans cette voie-là. Et pour moi, c'était une urgence de mettre ça en valeur et on a pu vivre des très, très belles trouvailles et aventures humaines parce qu'il faut savoir qu'un projet, parfois, nécessite 3 ans entre chercher, trouver, restituer, enregistrer, diffuser. Voilà, et donc, un des plus grands, peut-être dernières trouvailles que nous avons faites, c'est Joseph Vallet de Montigny, que j'ai déjà repéré dans les années 2010. J'ai eu la chance de connaître Benoît Michel, qui est un grand spécialiste aussi de la musique ici en Occitanie, sous un régime, mais c'est lui qui a aussi repéré les grands motets existants, survécus, dispersés un peu partout. Et on a enregistré 2 CD dédiés à ses œuvres, complétés avec quelques d'autres compositeurs occitans comme Dupuis ou Mallet, qui travaille à Montpellier. Donc c'est passionnant. Vous savez, c'est des genres de rencontres où ça vous marque aussi parce que vous faites la démarche, mais les compositeurs, quand ils viennent vers vous, vous découvrez derrière aussi toute une histoire de pays, de la région, de la ville. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les ans qu'on peut tomber sur une qualité de création qui confirme qu'à Toulouse, ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais on avait bien mérité avant le label de UNESCO. Depuis le 17e, 18e, on avait une effervescence de création, de musicalité et qui n'a rien à envier à Versailles ou Paris.
Alors, le concert, lui, du 28 novembre et son programme n'ont rien à voir avec la musique et les compositeurs d'Occitanie des 17e et 18e siècles. Là, on va être en plein romantisme, fin du romantisme. Nous allons parler du programme de ce concert du 28 novembre. Il rend hommage à votre compatriote Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. J'espère l'avoir bien prononcé. C'est certainement le plus grand compositeur que la Lituanie ait connu. Et c'est vraiment un artiste étonnant, pour ne pas dire fascinant, à la fois compositeur, peintre et écrivain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des personnages centraux de la culture lituanienne, Roland Dass?
On peut le dire, c'est vraiment le père de la musique lituanienne, c'est-à-dire c'est des petits pays, comme vous observez, la Finlande, Norvège, qui se libèrent en fin du 19e siècle des occupations, des dominations de d'autres régimes. Et la musique joue un rôle extrêmement essentiel dans la reconquête de l'identité nationale. Et Čiurlionis fait ce que faisait Grieg ou Sibelius, c'est-à-dire qu'il va aller s'inspirer de la musique traditionnelle et il va donc ramené dans le monde de la musique savante. Et donc c'est lui qui arrange, qui harmonise les chants traditionnels lituaniens, mais c'est lui qui s'inspire aussi des paysages de transcende dans ses œuvres symphoniques comme la forêt, la mer. Donc oui, on peut dire que c'est vraiment le père fondateur de reconquête de cette musique nationale lituanienne.
Né en 1875 comme Maurice Ravel. Nous célébrons donc les 150 ans de sa naissance cette année. Il est mort prématurément, en revanche, en 1911. On parle à son propos, que ce soit pour sa peinture et sa musique, de symbolisme. Alors qu'à la même époque, se développe l'impressionnisme en France, que ce soit en peinture ou en musique d'ailleurs.
Tout à fait. Ben, la Lettonie est sous influence de cet héritage germanique. Čiurlionis commence à Varsovie et puis finit ses études à Leipzig. Donc évidemment, il est inspiré et conditionné par cette esthétique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que donc, le programme était construit en partant de ce constat que ces deux génies de la musique impressionniste en France, Debussy, et Čiurlionis en Lettonie, symboliste, écrivent en même temps poème symphonique Jura, la mer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à travers ces deux esthétiques, il y a quelque chose de commun, parce que si vous observez cet élément, la mer, on ressent la même chose. Et la musique, c'est aussi une façon extraordinaire de transmettre ce que parole n'est pas capable de le faire. Donc il y a cette sensation, cette émotion qui va être, j'espère, ressentie, parce qu'on a voulu absolument montrer les extraits, cette fois-ci transcrits pour quatre mains et joués au piano par duo Zubovas, Sonata et Roca, c'est un couple dans la vie aussi, donc qui vont apporter, j'espère, cette condition pour apprécier la suite du concert qui est passionnante.
Qu'est-ce qu'on trouve dans l'œuvre de Čiurlionis, donc des poèmes symphoniques comme Jura, la mer, ça s'écrit Jura, mais c'est pas la montagne, c'est la mer. Il y a un quatuor à cordes aussi, j'ai vu, il y a des pièces chorales et puis un certain nombre de pièces pour piano seul et même une pièce pour orgue.
Tout à fait. Donc, je pense que d'abord, la Lettonie est bercée par la mer Baltique. Je ne sais pas l'inspiration. Est-ce que la mer de Debussy a les mêmes sensations? Il a quelque chose dans le commun. Il a ce côté fascinant. Et bien sûr, la mer, c'est la vitalité, c'est la vie, c'est aussi source de nourriture, c'est aussi la protection. Je pense que le pays qui a cette chance d'avoir l'accès à la mer, c'est aussi une sorte de façon de se projeter vers une certaine liberté que lorsqu'on vit une impression. Moi-même, j'ai eu cette sensation que j'étais sur les plages de mer Baltique, j'ai regardé en face la Suède, j'avais tellement envie de connaître un jour, et ce jour est arrivé. Donc oui, je pense que la mer est tellement... Un des éléments de la nature est tellement présent qu'effectivement on retrouve dans ses œuvres de Čiurlionis. Il a, malgré son jeune âge, il a pu laisser encore plus importante pour la musique instrumentale et vocale. C'est un peu notre domaine qu'on voudrait mettre en valeur dans ce programme-là.
Alors vous allez nous présenter bien sûr le programme dans le détail hein, de ce concert hommage à Čiurlionis. Avant ça, on va écouter un extrait de Jura, la mer. Ce poème symphonique pour orchestre à la base a été transcrit pour piano à quatre mains par Claude Debussy, le contemporain de Čiurlionis. Voici le premier mouvement à qui il a donné le titre de Exposition. C'est le thème principal même de l'œuvre. Et donc c'est une version du duo Zubovas. Thank you. Exposition, le très beau premier mouvement de Yura, le poème symphonique composé par Turionis et transcrit pour piano à quatre mains par Claude Debussy, joué ici par le duo Zubovas. Cette œuvre est au centre du concert que vous donnez le vendredi 28 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec votre ensemble Antiphona, le chœur Nota Bene, le chœur du conservatoire et donc le duo Zubovas que nous venons d'entendre. Bon, donc Yura, c'est sans doute l'œuvre la plus connue, la plus emblématique de Turionis. Je voudrais qu'avant qu'on rentre dans le détail des autres œuvres qui vont être jouées pendant ce concert, que vous nous présentiez ceux qui vont intervenir. Donc l'ensemble Antiphona, on en a déjà parlé. Le duo Zubovas, vous l'avez aussi présenté. Il y a donc aussi le chœur Nota Bene qui a été fondé et dirigé par votre collègue du conservatoire, Delphine Armand. Et puis, il y a aussi un chœur du conservatoire.
Tout à fait. Alors, on voulait distinguer deux parties de cette rencontre. D'abord, présenter dans la première partie une facette de Turionis, quelqu'un qui écrit aussi les œuvres religieuses, parce que dans la deuxième partie où Antiphona sera, ce sont plutôt les chants traditionnels qui étaient mis en polyphonie. Et puis aussi la fameuse création dont on touchera peut-être deux mots de Noël à Saint-Jude qui s'est inspiré beaucoup. Et dans cette première partie, il aura donc quelques extraits de la messe. C'est plutôt des exercices d'études quand il était à Varsovie, puis après à Leipzig. Et un magnifique Kyrie aussi en fugue, on dirait Jean-Sébastien Bach, mais qui finit avec Amen, ce qui est inhabituel pour une messe de partie de Kyrie. Et après, il a une psaume De Profundis qui est traduit en lituanien et mise en musique. On se ressent un petit peu l'héritage de Brahms, vraiment une très très belle texture chorale et magnifique accompagnement. Également, il aura une partie de présentation de Turionis peintre, et aussi toutes ces personnalités comme Romain Rolland, comme Messiaen, qui rendent hommage à Turionis. Dans cette partie-là, on va réunir 150 choristes à peu près, qui vont chanter séparément et après ensemble. Et deuxième partie va être consacrée à vraiment dans cette, comme j'ai expliqué, programme qui est né d'une rencontre d'impressionnisme et symbolisme entre Turionis et Debussy, et qui intègre aussi les personnalités comme Messiaen avec son motet au Sacrum Convivium qui s'intéressait beaucoup à Turionis. Et j'ai vécu une expérience extrêmement flatteur. J'ai eu cette chance de rencontrer Olivier Messiaen au tout début de mes études à Paris. Et quand je me suis présenté que je venais de Lituanie, il dit Turionis, il n'a même pas cherché de tourner. Donc voilà, tout de suite, qu'il connaissait très très bien. Il faut savoir aussi que Landsbergis, peut-être vous vous souvenez, notre premier président de l'indépendance, qui était aussi le professeur de romantisme à l'Académie de musique, c'était mon professeur, donc était grand spécialiste qui a écrit des bouquins sur Turionis. Et voilà, cette présence de Turionis était très très important, un pays qui encore était sous les joutes de l'Union soviétique. Et donc on recommençait l'histoire un petit peu, vous voyez, retrouver la musique, les artistes jouaient ce rôle important dans la sauvegarde de cette conscience d'identité nationale. Et ça se perpétue aujourd'hui avec d'autres compositeurs qui s'inspirent, écrivent. Et même si Antiphona dévie un petit peu à son ADN de musique ancienne, je trouve que la musique d'aujourd'hui n'existerait pas sans ces répertoires qui précédaient, mais aussi c'est une source d'inspiration, ce que va être mis en évidence dans la magnifique création, les réflexions que nous allons chanter pour la première fois ici en France, sous le texte de Oscar Miloche, un autre grand poète et personnalité, et un grand mystique aussi, qui était diplomate, qui était ambassadeur de Lituanie en France, entre les deux guerres. Et donc, Nyola Sienkiewicz, qui va faire un déplacement, on est très heureux. Donc, mis en évidence aussi ses inspirations, non seulement des musiques anciennes, mais aussi, vous savez, Debussy, c'est la musique ancienne déjà, mais qui s'inspire aussi de la musique française. Et c'est pour moi la plus grande réussite, quelque part, c'est réunir, approcher ces deux cultures. La Lituanie est un petit pays, mais une tradition importante qui touche beaucoup le public français. Et on est allé cet été en Lituanie, on a fait une tournée et c'est un énorme succès. Les Lituaniens sont admiratifs, donc les Français qui chantent en lituanien, évidemment. Mais au-delà de ça, il y a une véritable... On est beaucoup plus proche qu'on imagine, et c'est peut-être la musique ou d'autres formes artistiques qui peuvent nous rappeler et prouver, créer ces ponts importants qui sont aujourd'hui réels grâce à la musique.
Il y a toujours eu des ponts entre la Lituanie et la France à travers l'art. Il faut penser à Romain Gary Il y a Chaim Soutine, hein, qui sont nés et ont grandi en Lituanie,
absolument,
même s'ils étaient juifs, hein, mais et après qui ont fait carrière en France, comme on le sait. Donc il y a des liens très anciens. Alors je voudrais qu'on aille un peu plus dans le détail concernant cette création mondiale des sept réflexions, composition réalisée par Niyole Sinkevichiute. J'espère encore l'avoir bien prononcé.
Bravo.
Pour chœur à 8 voix et piano à 4 mains. Je donne les titres de ces 7 réflexions. Il y a le rocher, la nuit, le vent, le silence, le soleil, la mer, encore elle, et la terre. Donc on est encore face aux éléments, quelque sorte, au vent, au soleil, et puis au silence, à la nuit. Donc on est dans l'introspection beaucoup et dans la contemplation.
Tout à fait. Les textes, je vous invite à les lire, s'appellent Les éléments. Les éléments, c'est pas notre cœur célèbre de Toulouse, mais Les éléments, écrits entre les deux guerres par Oscar Miloš, qui était un Lituanien, mais qui écrivait en français. Et c'est un texte très symbolique, très mystique. C'est un peu comme l'univers de la peinture de Čiurlionis. Et c'est des vrais tableaux que compositrice Niyole a mis en musique. Et dans cette formation, 8 voix solistes et piano à 4 mains. Pour moi, c'est une très, très belle réussite. C'est une musique qui, encore une fois, peut-être casse un petit peu les codes des écoles parisiennes, mais c'est très agréable à chanter. Et il y a quand même des clusters, mais ils sont diatoniques. Donc, on est dans un mélange de différentes influences. Et il faut savoir que Miloš se sentit toujours nostalgique de la Lituanie, était toujours très présente. Et il n'a jamais pu revenir en Lituanie parce qu'il avait l'occupation nazie et après soviétique. Et donc Compositus voulait finir avec Jame, qui veut dire la terre, et dans laquelle on évoque aussi on termine avec une sorte de thème traditionnel, de musique traditionnelle. Si j'étais un oiseau, j'aurais atterri. Et donc il voulait être enterré dans cette terre-là qu'il n'a pas pu. Donc ça se termine un petit peu avec, même si l'œuvre est en français, on termine avec ce paraphrase de musique traditionnelle qui rappelle un peu cette symbolique.
Voici un extrait des 7 réflexions, l'œuvre pour chœur à 8 voix et piano à 4 mains de la compositrice lituanienne Niyole Sinkevichiute, dont la création mondiale va donc avoir lieu le 28 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines par l'ensemble Antifona et le duo Zubovas. C'est la 4e réflexion qui a pour titre Tila, en français Silence.
Je te suivrai ce soir aux lieux qui te sont chers, dans l'humide forêt, vers la source aux yeux clairs, et parmi les tombeaux, car je t'aime, ô silence.
Ô silence, ami si,
ô silence, ami si,
ô silence, ami si,
ô silence.
Tila, Silence, quatrième des sept réflexions de Niole Sinkevičiūtė, interprétée par l'ensemble Antiphona et Lulu au Zubovas, dont la création mondiale a lieu lors du concert du 28 novembre. Une dernière chose, Rolandas Muleika, l'entrée est gratuite pour ce concert, mais il faut tout de même s'inscrire au préalable pour assister à la soirée. Les billets doivent être commandés sur la billetterie en ligne du Conservatoire de Toulouse.
Absolument. C'est vrai que j'ai entendu dire que ça s'est bien rempli, mais si vous êtes intéressé, pas hésiter de contacter Festic sur le site de Conservatoire. Et je profite aussi pour remercier le Conservatoire, la mairie et puis surtout l'ambassade de Lettonie qui a permis que cet événement puisse avoir lieu ici à Toulouse. L'ambassade a fait deux événements, un à Paris et l'autre à Toulouse. Et donc on est très heureux aussi de voilà, accueillir, je pense, l'ambassadeur qui va se déplacer, qui également sincèrement aime beaucoup la culture et qui est très présent dans les événements culturels. Donc ça va être une très très belle rencontre. Donc si vous ne savez pas quoi faire un vendredi soir, n'hésitez pas de se précipiter pour acquérir cette place-là qui est gratuite, mais il faut réserver.
En tout cas, nous, Serge, on y sera.
Exactement.
Ah, merci.
On y sera et on sera heureux effectivement d'assister à ce concert, à la prolongation de ce mariage entre la France et la Lituanie sur le plan culturel. Il y a d'autres concerts dans les jours à venir, notamment celui de la saison Toulouse Guitare, vendredi 21 novembre à 20h. À la salle du Sénéchal, nous allons y entendre pour la première fois à Toulouse le duo formé par le guitariste Kevin Sedicki et l'accordéoniste Jean-Louis Matinier. Qui sont-ils et quel programme vont-ils proposer, Serge ?
Ce sont deux compères, en quelque sorte, qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Alors, c'est pas très courant hein, d'associer une guitare et un accordéon, mais ça marche extrêmement bien. Alors, ils vont donner un programme très varié, vraiment, qui part de la mélodie Les Berceaux de Gabriel Fauré jusqu'à quelques arrangements de Mélodie du Bonheur, de Greensleeves, etc.
Musique de film aussi.
Beaucoup, voilà, beaucoup d'arrangements.
Des choses de la vie.
De Sedicki et Matinier eux-mêmes, donc, et qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et donc, ça va être vraiment un programme et un concert tout à fait original et nouveau. Et je voudrais rappeler que la tradition qui consiste à inviter un jeune ou une jeune guitariste pour assurer la première partie va être respectée. Et il s'agira d'une jeune guitariste qui s'appelle Inès Bien, qui est élève au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et qui jouera donc des pièces de John Doland, Federico Moreno Torroba, etc. Ce sera vraiment un programme très inhabituel,
oui, très
et très
original,
nouveau, et donc c'est vraiment très intéressant. Ce sera donc le 21 novembre à 20h à la salle du Sénéchal.
Et dans le programme que vont jouer Jean-Louis Matinier et Kevin Sedicki, il devrait y avoir ce morceau composé par le second. Il a pour titre « Après la pluie ».
Thank you.
très agréable composition de Kevin Sedicki, interprétée par le duo qu'il forme avec l'accordéoniste Jean-Louis Matinier. Duo que vous allez donc pouvoir découvrir à la salle du Sénéchal ce vendredi 21 novembre à 20h pour le deuxième concert de la saison 25-26 de Toulouse Guitare. Serge, vous teniez aussi à annoncer et présenter la 11e édition du Forum Bypass qui a lieu cette année du 21 novembre au 2 décembre à Toulouse et à Pibrac. Bypass, c'est le forum de la création musicale contemporaine et il est animé par le studio EOL de Pierre Jodowski.
Voilà, et Bertrand Dubedoux, donc ils sont deux à animer ce studio EOL et ils proposent 5 soirées de musique actuelle, hein, c'est ça le but de ce studio. Et donc avec le vendredi 21 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, un spectacle mêlant art dramatique et composition électroacoustique avec une évocation de Berlin Alexanderplatz, roman d'Alfred Döblin d'ailleurs, qui sera associé oui, à cette soirée.
Qui a été porté à l'écran plusieurs fois et notamment qui a fait l'objet d'une série télévisée de Rainer Werner Fassbinder à la télévision allemande en 1980.
Et puis le mardi 25 novembre à 20h, ce sera dans la grande salle du lieu rebaptisé maintenant 9-9. C'est ce lieu qui est 151 route de Blagnac, pour ceux qui veulent s'y rendre donc. Et cet éclat d'impro, un concert avec Pierre Jodowski, donc les étudiants de Music Hall, fruit de 2 journées de résidence autour de l'improvisation. Le mercredi 26 novembre à 20h30, là ça sera au Théâtre Musical de Pibrac, avec L'Éternel Silence, un ciné-concert autour du film qui porte ce titre, d'Herbert Ponting, donc, et ce sera une création musicale de Pierre Jodlowski et Itziar Viloria. Le samedi 29 novembre, à partir de 18h30 cette fois, toujours au 9-9, ce sera la fameuse folle nuit acousmatique qui a lieu tous les ans, donc avec une soirée très prolongée, une soirée hommage à François Donato avec 3 générations de compositrices et compositeurs, vraiment avec la classe de composition électro-acoustique du Conservatoire de Toulouse, l'ensemble Flashback et Triphonique pour une exploration à la fois passionnée et engagé du monde acousmatique hein, que développe beaucoup le studio EOL. Et enfin, la dernière manifestation aura lieu le 2 décembre à 20h30. Ce sera au ciné Pathé Wilson avec évidemment une soirée de clôture consacrée aux films expérimentaux de Walter Ruttmann qui seront revisités par le vidéaste David Coste, le compositeur Damien Rudel-Rey et par un accompagnement musical live des étudiants des classes de musique actuelle de l'ISDAT. Et donc, chaque événement sera suivi d'un bord de scène qui favorisera l'échange entre artistes et public. Et
voilà un programme à la fois très varié, riche, copieux, pour ceux qui aiment la création musicale contemporaine, les musiques actuelles, 11e édition du Forum Bypass à Toulouse et à Pibrac du 21 novembre au 2 décembre. Et enfin, dernier rendez-vous à noter sur vos agendas, le concert du lundi 24 novembre, donné à 20h par le Münchner Philharmoniker sous la direction de Tugan Sokiev, à l'invitation du cycle des grands interprètes. Nous allons également y entendre les frères Arthur et Lucas Jussen dans une œuvre bien particulière et rarement donnée au public, Serge.
Exactement. Alors, c'est un programme très contrasté, on peut dire, puisque les deux frères qui sont natifs d'Hilversum, aux Pays-Bas, et qui vont donner le concerto pour deux pianos et orchestre de Francis Poulenc, avec cet esprit particulier de Francis Poulenc, alors que la deuxième partie du concert sera occupé par la symphonie numéro 4 de Tchaïkovski, qui est pratiquement à l'opposé de l'esprit de Poulenc, donc dirigé par Tugan Sokiev, qui est, on peut dire, un expert en musique de Tchaïkovski.
Hein. Oui, Tchaïkovski, entre autres. Oui.
Exactement. Et donc, le concert s'ouvrira avec une ouverture, donc Les Hébrides de Félix Mendelssohn. Donc, un programme copieux, intéressant et très contrasté.
Le concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, qui est donc une œuvre, comme je le disais, très rarement donnée en concert. Raison de plus pour vous la faire entendre dans cette émission. Voici son très beau premier mouvement Allegro ma non troppo, joué par les frères Arthur et Lucas Jussen. Thank you. Le premier mouvement Allegro ma non troppo du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, joué par les frères Arthur et Lucas Jussen, qui se produisent lundi 24 novembre à 20h aux côtés du Münchner Philharmoniker, dirigé par Tugan Sokiev. Il y a donc aussi au programme la symphonie numéro 4 de Tchaïkovski. La billetterie est en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.com. Je rappelle que le duo Kevin Sedicki-Jean-Louis Matinier est en concert ce vendredi 21 novembre à 20h à la salle du Sénéchal pour le deuxième rendez-vous de la saison 25-26 de Toulouse Guitare. Les places sont à acheter et réservées sur le site www.toulouseguitare.fr. Je rappelle aussi que la 11e édition du forum Bypass se tient du 21 novembre au 2 décembre à Toulouse et à Pibrac. Billetterie en ligne à l'adresse www.studio-eol.com. La nouvelle production de Don Giovanni, mise en scène par Agnès Jaoui, a lieu, elle, du 20 au 30 novembre à l'Opéra National du Capitole. Il y a 9 représentations du célèbre opéra de Mozart, a priori toutes complètes, mais vous pouvez tout de même tenter votre chance en consultant le site www.opéra.toulouse.fr. Et je rappelle enfin que l'ensemble Antifona, le chœur Nota Bene, le chœur du Conservatoire de Toulouse et le duo Zubovas donnent leur concert hommage à Tchirlionis, vendredi 28 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Entrée gratuite, mais il faut réserver sur le site web du CRR de Toulouse. Un grand merci à Rolanda Smouleika, notre invité d'honneur, et à Serge Chouzy qui a animé cette émission avec moi. Merci aussi à Enzo Basile, à la régie technique. Le podcast est téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci encore une fois à tous nos fidèles auditeurs. Excellente semaine musicale à tous.